travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Je serai la seule candidate communiste dans cette élection présidentielle. Depuis ses débuts, le courant communiste s'est employé à défendre la perspective de la révolution sociale, la perspective d'une société sans classe sociale, sans l'exploitation capitaliste. Le courant communiste a toujours opposé à la bourgeoisie une politique ouvrière, opposé aux valeurs de la bourgeoisie les revendications des exploités. Alors que la plupart des représentants politiques n'ont que les mots liberté, égalité, fraternité à la bouche, le courant communiste les a toujours dénoncés comme des mots creux pour les travailleurs. Parce que dans une société où presque tout se vend et s'achète, eh bien pour être libre, il faut être riche. Et quelle est l'égalité et la justice quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que d'autres brassent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation? Et quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seule la rentabilité et le profit comptent? On nous parle de république, on nous parle de démocratie. Mais c'est le droit du plus fort, c'est le pouvoir absolu du capital. Au prétexte qu'ils ont apporté les capitaux, les plus riches ont un droit de vie ou de mort sur les entreprises. Et ils tiennent dans leurs mains la vie de millions de travailleurs. Les injustices, les inégalités ont toujours été combattues par le courant communiste révolutionnaire. Et ce courant a systématiquement pris le contre-pied du fatalisme et de l'acceptation prêchée par la bourgeoisie. Et il s'est battu, au contraire, pour que les travailleurs qui font tout tourner dans l'économie prennent conscience qu'ils peuvent aussi la diriger et qu'ils pourraient collectivement le faire mille fois mieux que ne le font aujourd'hui les capitalistes. Le courant communiste révolutionnaire a toujours refusé de s'intégrer au système politique de la bourgeoisie. Mais il a toujours tenu à se faire entendre dans les élections. Eh bien, c'est ce courant que je veux représenter dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette société d'exploitation est à renverser et qu'il n'y a rien à garder du système capitaliste doivent l'affirmer. Toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé envers et contre coup et contre tout leurs idéaux, leurs rêves et leurs convictions que l'avenir ne peut être que dans une société communiste doivent l'exprimer. Même dans les élections, on peut lever le drapeau de la révolution sociale. Et aujourd'hui, alors que la faillite de ceux qui dirigent l'économie est plus que jamais patente, eh bien, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui lèvent ce drapeau du communisme révolutionnaire. Tous les autres candidats se placent du point de vue des affaires de la bourgeoisie. Et ils se creusent pour aider les capitalistes à être plus compétitifs, plus innovants, plus rentables. De l'extrême droite jusqu'à Mélenchon, les candidats se différencient et s'opposent parfois sur les règles à mettre en œuvre. Mais il s'agit toujours d'aider les entrepreneurs, de faire prospérer leurs affaires. Quand ils parlent de protectionnisme ou de taxes aux frontières, c'est de la protection des affaires de la bourgeoisie dont ils parlent. Quand certains défendent le retour au franc, c'est pour nous expliquer que cela favorisera les exportations, le commerce. Et que la paye soit en francs ou en euros, ce n'est pas le cas. Alors, nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance lui imposera. Et nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aujourd'hui aux travailleurs grecs. Les amputations de salaires et de retraites, la démolition des services publics et le chômage forcé. Alors on entend de tous les côtés qu'il faut battre Sarkozy, que cela ne peut pas être pire. Mais si, cela peut être pire. Ça peut être pire, pire, parce que la crise peut se poursuivre et s'aggraver. Et que ce soit Hollande ou Sarkozy, eh bien les coups tomberont. Et si les coups viennent de la gauche, eh bien cela ne les rendra pas meilleurs. Alors, plutôt que de nous bercer d'illusions, préparons-nous à nous défendre et à nous défendre par nous-mêmes. préoccupant que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient. Quand ils ne prenaient pas fait des causes pour eux, y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Alors, beaucoup se disent que cela ne sert plus à rien d'aller voter. Mais si le vote ne peut pas changer la vie des travailleurs, eh bien il offre au moins l'occasion d'exprimer sa colère. Pourquoi mettre son poing dans sa poche et se taire quand on a l'occasion d'exprimer une colère consciente et d'exprimer son accord sur un programme de lutte? Et puis, autour de nous, il y en a aussi qui sont amers et très désorientés et qui seraient tentés de voter pour le Front National. On les a tous essayés sous Fell, disent-ils. Mais ils se trompent. Parce qu'avec Sarkozy au pouvoir, on l'a eu, la politique de la droite extrême. Le Pen n'est pas au gouvernement, mais avec Guéant et Sarkozy, une partie de sa politique y est déjà. Croire que l'on peut rejeter tous les hommes politiques en votant pour le Front National, c'est se tromper lourdement. Marine Le Pen veut, comme les autres, aller à la mangeoire. Elle pense avoir trouvé un créneau porteur, un créneau abject, qui s'appuie sur les préjugés racistes et chauvins pour se faire une petite place dans le système. Mais elle est comme les autres. Marine Le Pen est une défenseure des riches, de la propriété, une défenseure de la société telle qu'elle est, avec l'exploitation capitaliste, avec ses inégalités, ses injustices. Le Front National vise à affaiblir les travailleurs, à les diviser en jetant en pâture nos camarades, les travailleurs immigrés. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour la classe ouvrière. Et l'extrême droite, associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime, mais comme le patronat les aime, c'est-à-dire avec le doigt sur la couture du pantalon. Et d'ailleurs, elle s'adresse aux travailleurs qui sont résignés et désespérés. Mais quand les travailleurs se battent et quand ils font grève, eh bien c'est la première à hurler avec les loups. Alors voter Le Pen signifie rejoindre, ne serait-ce que par le bulletin de vote, la cohorte des nostalgiques des guerres coloniales, les calotins en tout genre et les ennemis les plus avérés de la classe ouvrière et ceux qui tirent toute la société en arrière. Eh bien, pour des travailleurs conscients, il ne peut pas en être question. Je serai peut-être la seule à le dire, alors je ne m'embrouillerai pas. Notre avenir à nous, le monde du travail, n'est pas au fond des urnes. Quel que soit le futur élu, nous devons nous préparer à nous défendre, à nous battre pour imposer nos intérêts vitaux. Pour préparer l'avenir, eh bien, il nous faut un programme de lutte. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait de la crise, et dès même que le patronat anticipe une petite baisse de production, il renvoie les intérimaires. Il renvoie les CDD, il supprime des emplois, il aggrave les conditions de travail pour ceux qui restent. Le patronat maintient comme cela le même niveau de rentabilité et de profit, malgré la crise, parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir ses propres pertes. Eh bien, s'il y a moins de travail à faire, il faut forcer le patronat à répartir le travail entre les travailleurs, qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'il garde tous les travailleurs et qu'il garantisse les salaires. Qu'il partage le travail sur tous et que l'on maintienne le salaire à 100%. Et puis il faut embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes incapables de prendre leur jour de repos pour comprendre qu'il faut embaucher dans les hôpitaux et répartir le travail. Oui, il y a de quoi embaucher aussi dans les écoles, à la poste, dans les transports. Et il faudrait même développer de nouveaux services publics. Parmi les domaines où la défaillance du secteur privé est manifeste et dramatique par les temps qui courent, il y a le domaine du logement. Chaque année, à la même période, on a le cœur déchiré de voir ces femmes et ces hommes à la rue, forcés de dormir dans leur voiture ou dans des taudis à peine chauffés. Et c'est d'autant plus révoltant que le problème ne date pas d'hier. Et c'est d'autant plus révoltant que la solution est tout à fait à la portée de l'État. Pourquoi, alors que l'État supporte par exemple l'essentiel des dépenses de l'industrie privée de l'armement? Et je tiens à rappeler que rien que le programme du Rafale, dont tout le monde est si fier, pas nous, aura coûté 40 milliards aux contribuables. Alors, pourquoi, quand l'État trouve l'argent pour cela, il ne trouverait pas de quoi préempter les terrains et développer son propre service de construction en embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes? L'État pourrait le faire directement, sans en passer par les marchands de béton et autres spécialistes de fausses factures. Et voilà comment on pourrait construire le million de logements qui manque aujourd'hui cruellement dans le pays. L'intérêt des chômeurs et l'intérêt de toute la société se conjuguent pour imposer non pas moins de personnel dans les services publics, mais plus. Pour imposer non pas moins de services publics, mais plus de services publics. Et puis il faut aussi imposer des augmentations de salaire et des augmentations de pensions de retraite et obtenir leur indexation sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Depuis 2005, le gaz à lui seul a augmenté de 60%. Au 1er janvier, le gouvernement s'était vanté parce que l'augmentation du prix du gaz n'allait être que de 4,5%. Mais qui a vu son salaire, ses allocations ou sa pension de retraite augmenter de 4,5%? Et puis à cela, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, des mutuelles, du carburant. Et puis c'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements de médicaments se multiplient à tel point que se soigner est devenu un problème pour beaucoup. Et puis il n'y a que Sarkozy pour dire que l'inflation n'est pas un problème. Même les patrons l'avouent. À commencer par les patrons de péages d'autoroute, puisqu'ils ont justifié leur relèvement de leurs tarifs justement par l'inflation. Et dans la réalité, tous les groupes capitalistes s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une petite hausse de leurs achats, eh bien, ils la répercutent sur les prix. Et c'est facile pour eux, puisqu'ils fixent leurs prix, ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, eh bien, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme les allocations logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent. Qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible, que le pays a un problème de compétitivité. Mais les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils versent des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales, ce que l'entreprise verse en dividendes aux actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons rabâchent que les travailleurs coûtent cher. Mais combien leur rapporte un salarié? Et combien leur coûte les actionnaires? Toute la société a intérêt à ces contrôles. Parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles veulent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Eh bien, il faut qu'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. C'est un objectif qui doit réunir les travailleurs des villes et les travailleurs des campagnes. Et il arrive quelquefois aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas proposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix auquel ils vendent et le prix auquel le consommateur achète. Eh bien, ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer, parce que les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle. Ils sont en position pour dévoiler les petites et grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle qui caractérise l'activité économique de ces grands groupes capitalistes. Et plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique. Parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Ceux perpétrés par les banquiers et les spéculateurs irresponsables, mais ceux perpétrés aussi par ces patrons, qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés au nom de la rentabilité, comme ce fut le cas par exemple de ces patrons, qui ont empoisonné des dizaines de milliers de travailleurs avec l'amiante. Alors en levant le secret bancaire et le secret commercial, eh bien on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de divulguer toutes les informations qu'ils ont. Les salariés sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et qu'ils voient ce qui se passe. Alors, il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Et cette mesure, ce serait une revendication essentielle lors d'une lutte générale. Parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Et ils pourraient anticiper, ils pourraient s'organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Alors oui, ce serait un premier pas pour contester le pouvoir de direction de la bourgeoisie, un premier pas pour contester la dictature du grand capital. Nous ne doutons pas que la situation poussera tôt ou tard des millions de femmes et d'hommes dans la rue. Mais la colère et la détermination ne suffiront pas pour gagner. Il faut encore que les travailleurs sachent pour quels objectifs ils peuvent se battre et pour quelle politique. Populariser ce programme de lutte est la meilleure façon de préparer les luttes qui sont à venir. Chose importante, dans cette lutte, nous pouvons compter sur nos frères, les travailleurs immigrés. Les politiciens de la bourgeoisie continuent de débattre entre ceux qui rejettent l'idée même de donner le droit de vote aux travailleurs immigrés et ceux qui sont pour le leur accorder, mais seulement aux élections municipales. Eh bien, c'est honteux. Bien sûr que tous ceux qui vivent, qui travaillent et qui se font exploiter ici devraient avoir le droit de vote, et ce, dans toutes les élections. Mais les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à cette idée, et qui s'opposent aussi à la régularisation de tous les sans-papiers, ne l'emporteront pas au paradis des urnes. Parce qu'en cas de grande lutte, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papier. Ils se retrouveront dans la même fraternité de la lutte collective, de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités. Et dans ces luttes, la jeunesse qui a toujours été à la pointe de la contestation aura un rôle majeur à jouer. Alors dans cette campagne, je m'adresse aussi aux jeunes, à tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Et ils savent que la vie de leurs parents n'a pas été rose, mais ils se disent qu'avec la crise et avec le chômage, pour eux, ça sera encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous ces jeunes des quartiers populaires qui subissent le contrôle aux faciès et qui sont marginalisés, et qui sont accusés à longueur de journée de tous les maux de la société. Je veux m'adresser aussi aux jeunes diplômés qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue aujourd'hui au comptoir d'un McDo ou à la caisse d'un supermarché. Alors je dis à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques jours, ce que ne gagnera jamais aucun salarié tout au long de sa vie? Et qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes, et on nous dit après qu'il n'y en a plus pour construire des écoles, des hôpitaux, des logements? Qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent et les profits, le luxe, comptent plus que la vie humaine? Alors oui, cette société fonctionne à l'envers. et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes conscients, justement, du combat à mener. Et il faut des jeunes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, aux différences de métier, aux différences lorsque les uns sont encore au travail alors que les autres sont au chômage. Il faut des femmes et des hommes conscients de partager un sort commun et conscients de faire partie d'une seule et même classe d'exploités capable de changer la société. Sans même parler de transformer la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leur manifestation. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes gagnées, de haute lutte. Mais plus on approchera des élections, et plus on nous fera croire que notre sort dépend du bulletin que chacun glissera dans l'urne. Et il y a déjà une pression explicite ou implicite sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire pour le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus pour Hollande votent pour lui, ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, et ceux qui ont encore en mémoire, et qui ont sur le cœur les déceptions laissées par le Parti Socialiste chaque fois qu'il a gouverné, n'ont aucune raison de voter pour lui au premier tour. Ceux qui ont compris que Hollande fera ce que le patronat exigera de lui, et qu'il les laissera seuls face à leur patron, n'ont aucune raison de voter Hollande au premier tour. Il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, eh bien il y a dans la classe ouvrière une fraction de travailleurs qui ne lui font pas confiance. Quant à Mélenchon, il attirera un certain nombre d'électorats populaires, critiques justement vis-à-vis de Hollande. Ses airs de tribun, ses envolées contre les puissances de l'argent peuvent plaire. Mais tout cela, c'est pour nous faire croire que le salut pour les travailleurs viendra d'un changement de gouvernement. Mélenchon ne s'en cache pas. Son modèle en la matière, c'est le gouvernement Mitterrand. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie et qui promettait même la rupture avec le capitalisme? Et combien parmi eux se sont sentis trahis parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en les ascensionnant à tour de bras dans la sidérurgie, et même en glorifiant la bourse. Alors, des faiseurs d'illusions gouvernementales, il y en a toujours eu. Et toute notre politique consiste à les dévoiler auprès des travailleurs, à les prévenir des mauvais coups et des désillusions, à les armer politiquement pour affronter l'avenir. Je serai la seule à ne pas dire « votez pour moi », je ferai ceci, je ferai cela, et tout ira beaucoup mieux pour vous. Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, eh bien la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est affirmer que l'on n'est pas dupe devant ces alternances électorales. Voter pour ma candidature, c'est affirmer qu'il y a parmi des travailleurs, des femmes et des hommes qui savent que quel que soit le futur gouvernement, ils se retrouveront seuls face au diktat patronal et qu'ils se préparent à se défendre. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes. Mais les luttes se préparent dans les têtes. Et on peut contribuer à les préparer dans les têtes de ceux qui nous entourent en popularisant un programme, des objectifs autour desquels on peut s'unir et se battre. Pour que les luttes futures ne soient pas dévoyées, emmenées dans des voies de garage qui ne change pas le rapport de force entre la classe possédante et la classe des exploités, les travailleurs doivent savoir pourquoi se battre et contre qui. Eh bien si, dans cette élection présidentielle, nous nous retrouvons plusieurs centaines de milliers autour de ce programme de lutte, ce sera un pas considérable qui préparera la suite, qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Une fois les avons défendu pendant cette campagne continuent de l'être après. Pour cela, il faut un parti. Et celui-ci n'existera que lorsqu'il sera rejoint par plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes prêts à se consacrer à la transformation de la société. Et il n'existera vraiment que lorsqu'il pourra être présent et actif dans tous les domaines de la vie sociale. Dans les entreprises, d'abord, parce que c'est là que se mène jour après jour cette lutte de classe. Parce que c'est là que se décidera l'issue du combat entre les deux classes sociales. Mais il faut que ce parti soit présent aussi partout ailleurs. Dans les quartiers populaires, dans les écoles où se forme la jeunesse, dans tous les domaines qui touchent à la vie des travailleurs. Nous sommes encore loin de cette situation, mais c'est cette présence de militants communistes révolutionnaires qui peut aussi prendre le contre-pied de l'extrême droite et des forces réactionnaires de tous ordres qui essayent de capter à leur profit le mécontentement et la colère que la crise du capitalisme ne manquera pas de susciter. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées et de tous ces objectifs qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Alors votez et faites voter pour ma candidature. Et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat.